C'est bon, ça marche là, tu enregistres.
Ok, ça marche. Bon, ben, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. Et bienvenue pour cette nouvelle année du Cercle Biblique. Donc, pour ce premier rendez-vous, ainsi que pour les deux prochains, nous allons plonger nos regards dans la personne de Dieu, dans ce qu'a dit la Bible. On est dans le Cercle Biblique. Et ce matin, c'est particulièrement le mystère de la Trinité que nous allons aborder. Alors, ce mot « Trinité », c'est celui que les docteurs de l'Église ont trouvé pour tenter de dire qui est notre Dieu, en partie évidemment, puisqu'il est infini, et au-delà de toute compréhension totale pour nous autres qui sommes des créatures finies. Donc on va tenter de s'approcher avec nos mots humains, et ce que le Saint-Esprit m'en a fait comprendre, de la Trinité. Hein. Alors même si Dieu est incompréhensible, quand je dis incompréhensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement le comprendre, par contre, il se laisse connaître par la révélation qu'il donne de lui-même dans sa parole, par le Saint-Esprit qui nous régénère, qui vient faire sa demeure en nous et nous enseigne. Calvin disait du Saint-Esprit que c'est le plus grand enseignant de l'Église, de l'histoire de l'Église. Et grâce à Jésus-Christ qui est venu révéler le Père, être le médiateur entre lui et nous, nous réconcilier avec le Père en solutionnant le problème du péché, en accomplissant le salut que le Saint-Esprit applique à nos cœurs. Tout cela montre le désir qu'a Dieu de se révéler à nous afin que nous le connaissions, et ça fait partie de sa nature trinitaire, sa nature relationnelle. Vous voyez, là déjà, on a parlé de Dieu le Père, du Fils qui est venu révéler le Père, qui a été envoyé par le Père, et de l'œuvre du Saint-Esprit. On a commencé à parler de la Trinité en partie, sans prononcer le terme en tant que tel, rien que ce que j'ai dit sur les trois personnes, on est en train de parler de la Trinité. C'est un petit peu comme M. Jourdan qui faisait de la prose sans le savoir. Donc Dieu veut se révéler à nous et veut que nous le connaissions. Alors, je fais une petite pause de 2 secondes. Donc je disais que Dieu veut se révéler à nous et veut que nous connaissions. Par exemple, si on lit 1 Corinthiens 13, versets 12 et 13, c'est l'apôtre Paul, certes, qui parle. « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme d'un miroir. » Paul lui-même se met dans le « nous », évidemment. Hein. « Alors, nous verrons directement, dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. » Donc on voit qu'un jour nous connaîtrons parfaitement comme lui nous connaît, mais d'ores et déjà, l'Écriture nous présente la vie éternelle comme la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas une connaissance actuelle, évidemment, mais une connaissance relationnelle. Et déjà, dans l'Ancien Testament, les prophètes exhortaient le peuple à connaître Dieu. Je vais juste vous lire un passage là-dessus, c'est Osée. Le prophète Osée, qui fait un appel à connaître Dieu. C'est dans Osée 4. Alors, attendez. Osée chapitre 4, regardez le verset 1. « Vous, les Israélites, écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. » La vérité a disparu dans le pays, il n'y a plus d'amour, on n'y connaît pas Dieu. Et puis le verset 6 aussi, « Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai, vous ne serez plus mes prêtres, vous avez oublié la loi de votre Dieu. » Ok. Ça, c'est Osée chapitre 4. Là, j'ai juste eu le verset 1. Et 6, mais c'est, on peut en voir les conséquences de cette non-connaissance de Dieu. Jérémie 9 aussi, le prophète Jérémie nous parle de la connaissance de Dieu. Jérémie 9, versets 22 et 23, qui nous dit « L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agit avec bienveillance, qui exerce le droit à la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui vous font plaisir. Voilà, que celui qui se veut se glorifier, qui se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel. Ce verset sera repris dans 1 Corinthiens 1:31, dans le Nouveau Testament, en parlant de Jésus aussi. Alors, comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire l'effort de creuser la parole, de comprendre Dieu au travers de la révélation qu'il a donnée de lui-même et qu'il a mise par écrit dans des propositions intelligibles, en des mots, en des phrases construites, en des raisonnements. Dieu ne s'est pas révélé par vidéo. Et ce n'est pas parce que la vidéo n'existait pas à l'époque, c'est parce qu'il est souverain, il a choisi de se révéler à une époque, il a choisi de se révéler par des propositions écrites. Et le Saint-Esprit illumine ses propositions. Mais donc Dieu, je vais dire quelque chose d'évident, évidemment, Dieu est intelligent, bien plus que nous le sommes, et il s'adresse à notre intelligence aussi, qui va éclairer, évidemment. Hein. Et quand Jésus précise quel est le plus grand commandement, quand on lui pose la question, à Matthieu 22, 37, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La pensée n'est pas écartée. Alors, toute cette introduction pour nous rappeler que consacrer du temps à approcher le mystère de l'être de Dieu, à contempler Dieu au travers de la révélation qu'il donne de lui-même dans les Écritures, n'est pas quelque chose de superflu, ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas réservé aux théologiens, c'est sa volonté qu'on le cherche. Et Dieu se révèle toujours à ceux qui le cherchent. Ça, c'est rassurant. Hein. Chercher quelqu'un qui ne se révèle jamais, à quoi ça sert? De toute façon, si Dieu n'avait pas voulu se révéler à nous, on pourrait chercher longtemps. On n'aurait même pas l'idée de le chercher. Pascal, il disait, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Le philosophe Pascal. Hein. Et il honore toujours cette démarche. Et celui qui le cherche d'un cœur pur, Dieu va se révéler à lui. Alors, la Trinité, une définition. Alors, j'en suis au point 2, hein, dans le petit plan que je vous ai donné. La Trinité, définition. Alors, dit très simplement, à une phrase, la Trinité, c'est le Dieu des chrétiens, le Dieu des chrétiens et un Dieu en trois personnes. Ça, c'est une définition très, très simple. Je vous en citer une de Grudem dans sa théologie systématique. Dieu existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et chacune de ces personnes est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Et on voit qu'il y a trois propositions qui se juxtaposent. Éternellement en trois personnes, chaque mot est important. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a commencé avant l'autre. Les trois sont chacune pleinement Dieu, c'est-à-dire c'est pas un tiers ou une part de la Trinité, c'est Dieu le Père, une part Dieu le Fils, une part Dieu le Saint-Esprit. Ils sont pleinement Dieu chacun, et en même temps, il y a un seul Dieu. Ces trois personnes sont un seul Dieu. Il y a trois personnes en un seul être. Alors, tous nos vocabulaires sont limités, et les gens qui ont travaillé sur la Trinité, les théologiens, ont creusé dans le vocabulaire, des fois en ont retoqué d'autres en disant « non, c'est mieux de dire ça, c'est pas parfait », mais ils avaient tous conscience, ça s'est beaucoup fait dans les quatre premiers siècles de l'Église, que nos mots humains étaient bien imparfaits pour parler de Dieu, comme quand on veut parler de l'éternité, pareil, de Dieu. Il était quand Dieu? Avant les temps, avant la création, mais c'est quand avant? On emploie le mot « avant » qui est un mot marqué temporellement pour parler de quelque chose d'éternel, de quelqu'un d'éternel qui est EST. Donc on est limité. Alors, c'est en 180 après Jésus-Christ, pour la première fois, donc assez tôt dans l'histoire de l'Église, finalement, qu'un grec, Théophile d'Antioche, emploie le mot « triade », et ensuite Tertullien, un théologien latin qui était à Carthage, va le traduire en latin, donc, et ça va donner « trinité ». Alors, même si ce mot n'est pas dans la Bible, ce qu'il recouvre, un seul Dieu, trois personnes en un seul Dieu, et chacune de ces personnes sont chacune pleinement divine. Ces trois propositions se trouvent dans la Bible. Nous le verrons plus tard. Hein. Alors là, on en est indice de la Trinité de l'Ancien Testament. Alors, si la Trinité est enseignée de manière claire dans le Nouveau Testament, un seul Dieu, trois personnes en Dieu, et ces trois personnes sont pleinement Dieu, on en a déjà des indices dans l'Ancien Testament qui laissent percevoir de manière implicite, qu'il semble y avoir une pluralité dans le Dieu unique. Alors, clairement, s'il n'y avait eu que l'Ancien Testament, on n'aurait pas pu affirmer clairement la Trinité. C'est la lumière du Nouveau Testament, à commencer par la venue de Jésus-Christ, que nous pouvons relever les indices de l'Ancien Testament. Alors, dans plusieurs passages, nous voyons Dieu parler de lui-même au pluriel, comme s'il y avait pluralité de personnes en lui, même si le nombre de personnes n'est pas précisé, comme si affleurait une vie intérieure en Dieu. Par exemple, dès le début, en Genèse 1, 26, et Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Et en hébreu, quand on lit dans l'Ancien Testament, tous les récits bibliques où il y a des rois qui délibèrent en prenant des décisions, des rois qui parlent... Enfin, il n'y a pas de trace de pluriel de majesté utilisée par un roi pour parler de lui-même. Ça ne se faisait pas à l'époque. Louis XIV le faisait, nous, et voilà. Mais ça ne se faisait pas, ce n'était pas dans la tradition du Moyen-Orient. Donc ce « nous » n'est pas un « nous » de majesté, c'est un « nous » de pluralité. Vers quoi ce verset pointe, hein. On le retrouve en Genèse 3, 22 aussi, qui semble être un pluriel d'auto-délibération, comme s'il y avait dialogue en Dieu, puisque l'homme est devenu comme l'un de nous. Toujours dans cette même idée d'une pluralité en Dieu, d'un pluriel d'auto-délibération, on a le passage sur la tour de Babel, par exemple, en Genèse 11. Si vous avez des questions, vous pouvez les garder pour la fin, vous pouvez aussi m'interrompre si vous voulez. Genèse 11, versets 5 à 8. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voilà qu'ils forment un seul peuple parlant la même langue, et c'est ce qu'ils ont entrepris de faire. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la terre. Ils cessèrent donc de construire de la ville. Donc on voit qu'il y a l'Éternel, il, tout ça. Puis à un moment, au verset 7, on passe à nous, descendons et brouillons. Ésaïe, au chapitre 6, verset 8, c'est l'envoi du prophète Ésaïe, son appel après que son péché est expié. Et au verset 8, on a Dieu qui dit « Qui enverrai-je ?» Ça rappelle l'unicité des dieux. Et juste à la suite, « Qui marchera pour nous ?» Là, on passe du jeu à nous, comme dans l'épisode de Babel qu'on vient voir, comme s'il y avait pluralité en Dieu. Il y a aussi des passages où deux personnes distinctes sont appelées dieux. Oui.
J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps qui disait qu'il y avait un sort de singulier pluriel en hébreu. Oui. C'est ça ?
Oui.
On n'a pas vraiment, nous, en tant que... Oui. On n'a pas dans le français, quoi, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire.
Oui. Elohim, souvent c'est au pluriel alors que c'est Eloah au singulier. Je ne sais pas, c'est ça Norbert ?
Oui, c'est ça, Elohim. Enfin, tous les noms qui commencent par, qui finissent par im sont souvent des noms au pluriel. D'accord. Soit qui indique une pluralité, soit une immensité. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce nom, qui normalement est au pluriel, est suivi d'un verbe
au singulier.
Au singulier, voilà.
Voilà. Donne des passages où, comme dans le psaume 110, par exemple, verset 1, psaume de David, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Alors, psaume de David, ça fait partie du texte biblique. Et c'est important de le savoir parce que c'est le roi David qui parle et il dit, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Donc, c'est le roi d'Israël. Qui est au-dessus de David en Israël ? Qui est son Seigneur sinon Dieu lui-même ? Pourtant, Dieu dit à son Seigneur, donc Dieu dit à son Dieu. Et Jésus s'est même servi de ce passage pour questionner les pharisiens sur l'identité du Messie. Ça, c'est dans Matthieu. Il est connu, ce passage, dans Matthieu 22. Jésus va questionner les pharisiens. Matthieu 22, versets 41 à 46. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là, Jésus les interrogea à son tour. Quelle est votre opinion au sujet du Messie ? D'après vous, de qui descend-il ? De David, lui répondirent-ils. Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur ? En effet, il déclare, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant ? Puis là, ils ne sont pas capables de lui répondre, mais voilà. Donc, là, on vient de faire un saut dans le Nouveau Testament, mais c'est au travers d'un passage de l'Ancien Testament, le psaume 110, que Jésus éclaire de nouveau jour l'identité du Messie. Il n'est pas seulement le descendant de David, il est plus que cela. Ça laisse entrevoir la divinité du Messie, hein, évidemment. Il y a le psaume 45:7 aussi, 45:7 et 8. À un moment, au verset 8, ça dit « Aussi, ô Dieu, ton Dieu a fait de toi un roi ». C'est le même principe que dans le psaume 110. On le voit dans Malachie 3:1 aussi, où on voit le Seigneur des armées On va le lire en Malachie 3.1. Je ne vais pas trop en lire, peut-être je vais voir. Malachie 3.1. Eh bien, je vais envoyer mon messager, donc c'est Dieu qui parle, pour aplanir la route devant moi. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple. Le Seigneur que vous attendez, c'est l'ange de l'Alliance, appelé de vos vœux, le voici. Il arrive, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Donc là, on peut voir le Seigneur des armées annoncer le Seigneur que vous attendez, l'ange de l'Alliance. C'est comme si Dieu annonçait la venue de Dieu. Il y a Osée 1.7 aussi qui dit « Mais j'aurai compassion de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. » L'Éternel va sauver par l'Éternel. Donc on voit qu'il y a plein d'indices comme ça dans l'Ancien Testament. Je ne vais peut-être pas trop en lire. Hein. Ésaïe 63, c'est intéressant parce que là, il y a un indice par rapport à l'Esprit de Dieu. Allez, je dis 63. Ésaïe 63, verset 10, verset 11, verset 14, regardez. « Mais eux, ils se sont rebellés, ils ont attristé son Esprit Saint. Dès lors, il s'est changé pour eux un ennemi, il les a combattus. Alors, ils se sont souvenus des temps anciens et de Moïse. Ils ont dit, « Où est celui qui a fait sortir de la mer son troupeau avec son berger ?» Et où est celui qui a mis son Esprit Saint au milieu d'eux ? Au verset 14, il ressemblait à un troupeau qui rejoint la vallée lorsque l'Esprit de l'Éternel les a menés vers le repos. Ainsi tu as conduit ton peuple et tu t'es fait une glorieuse renommée. Alors, cette manière de parler de l'Esprit de Dieu laisse entrevoir une distinction entre Dieu et son Esprit, tout comme un peu dans le psaume 51, verset 13, où David, après avoir prêché, se repent et dit au Seigneur, ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Et on voit en Isaïe 63, verset 10, je le relis, « Mais eux se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. » On voit que l'Esprit Saint peut être attristé, comme s'il y avait une personnalité. Hein. Ce sera repris dans Éphésiens 4, 30, le verset qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », c'est sûrement une citation d'Isaïe 63. Il y a le proverbe 8 aussi, où il y a une personnification de la sagesse. Ça laisse entrevoir des indices d'une pluralité en Dieu, là encore. Il semblerait que Dieu n'était pas seul dans l'éternité lorsqu'il a entrepris l'œuvre de la création. Tu étais devant moi dans le sang. Vous rappelez ce passage dans Proverbe 8 ? On va en lire juste quelques versets quand même.
La sagesse, elle en parle beaucoup.
Oui. Et elle a souvent été... Elle est là dans ce passage, elle est vraiment...
Elle est personnifiée, oui.
Oui, elle est vraiment personnifiée. Verset 22. Or, l'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établi bien avant que la terre fût créée. J'étais enfanté avant que l'océan existe, avant que les sources aient fait jaillir leur eau surabondante, avant que les montagnes aient été établies. Après, il continue. Je n'avais pas encore formé la terre et les campagnes. Et moi, j'étais là quand il fixa le ciel qui traça un cercle autour de la surface du grand abîme. J'étais à ses côtés comme son maître d'œuvre, sans cesse objet de ses délices. Je dansais devant lui jour après jour, jouant sur la surface de la terre. Je trouvais mes délices dans les êtres. Voilà. Donc on voit qu'il y a une personnification de la sagesse et qu'il y a une relation entre Dieu le Créateur et la sagesse par qui il crée. Et
littéralement, c'est j'ai été oint depuis l'éternité.
C'est quel verset ça ?
Le verset 23. J'ai été établi, c'est littéralement c'est j'ai été oint.
D'accord.
J'ai été versé pour l'onction depuis l'éternité.
Oui. Oui, ok. Ouais, je vois, okay. Donc, on voit ça. Enfin, il y a aussi la figure de l'Éternel, de l'ange de l'Éternel, qui est connu, qu'on voit dans Genèse 16, versets 7 à 13, dans le passage d'Agar, où on voit que c'est l'ange de l'Éternel qui se présente à elle. Et puis, en fait, après, on voit que c'est l'Éternel lui-même. On le voit quand, en Genèse 18, quand il y a trois anges qui viennent... et qui vont annoncer à Abraham que Sarah va tomber enceinte. On le voit dans l'épisode avec Jacob, au Péniel. On le voit dans Exode 3 aussi, dans le buisson ardent. Alors on va lire celui-là, parce que là je ne vais pas tous les lire. On va lire l'épisode, s'il est court. L'épisode de l'apparition de Dieu au buisson ardent, Exode 3, versets 2 à 6. Commencer au verset 1 parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu du buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, je suis là. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Et regardez le début de l'apparition, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu du buisson. Donc voilà, on passe de l'ange de l'Éternel à l'Éternel. Et on voit que finalement, il est à la fois distinct de l'Éternel et identifié à lui. Et voilà, ça glisse d'un à l'autre. Voilà. Alors, dans le Nouveau Testament, par contre, on en est au point 4, la Trinité apparaît plus clairement, explicitement. Il y a plusieurs passages où les trois personnes de la Trinité sont mentionnées ensemble. Alors, le plus connu, peut-être, c'est le baptême de Jésus. On va le relire en Matthieu. Matthieu 3, versets 16 et 17. Aussitôt, là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Il y a lors du départ de Jésus, si dans là on voit les trois personnes de la Trinité en même temps, avoir relation en même temps. Il y a lors du baptême de Jésus, du départ de Jésus en Matthieu 28, 19, et lors de son grand mandat missionnaire, où il envoie ses disciples, il demande de baptiser les futurs disciples au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit participent au même et unique nom. Il y a aussi lors de la transfiguration, vous vous rappelez la transfiguration, voilà sur la montagne, Jésus est dans la nuée représente le Saint-Esprit, et il y a la voix du Père qui lui parle, ça fait penser un petit peu au baptême, hein, c'est la même chose, et qui approuve Jésus, qui approuve son Fils, c'est mon Fils en qui j'ai pris plaisir. Il y a les salutations de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est une formulation trinitaire, que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 13, le dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens. C'est une formulation de salutation trinitaire. Dans la mise en œuvre du salut aussi, les trois personnes de la Trinité sont dans certains passages cités ensemble. Alors si vous étudiez un livre sur la Trinité, si ça vous donne envie d'aller plus loin ou si vous avez déjà lu des livres sur la Trinité, vous verrez que souvent, on parle, quand on parle du salut, de Dieu interagissant, agissant envers le monde, dans la création d'un salut, de trinité économique. Ce n'est pas économique l'argent, c'est la manière dans la gestion. Hein. On va parler de trinité économique, c'est-à-dire le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on parle de la vie de Dieu en lui-même, on va parler des fois de trinité ontologique. Ontologie, c'est l'être en philosophie. Hein. Ou des fois de trinité essentiel, esse en latin c'est être, essentiel, l'essence c'est l'être. Voilà, c'est un peu les deux trinités dont il est parlé de temps en temps. Donc dans la trinité économique, dans les trois personnes dans le salut, c'est dans Galates, on va lire un ou deux, par exemple Galates 4, versets 4 à 7. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme, et placé par sa naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Donc on voit dans ce passage que on a le plan de Dieu le Père, la mission du Fils et la mission du Saint-Esprit. En Éphésiens, on va lire encore en Tite 3, je ne vais pas tout lire, Tite 3, versets 4 à 6. qu'est-ce qu'il nous dit dans Tite 3, verset 4 à 6. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour par les hommes, il nous a sauvés. S'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bien purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit l'a répandu avec abondance pour nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc on voit les trois personnes, on voit Dieu, on voit le bien purificateur du Saint-Esprit par la régénération et on voit le salut accompli par Jésus-Christ. Oui, j'allais la citer.
Un
Pierre, oui, non, mais merci, il n'y a pas de souci. C'est 1 Pierre 1, versets 1 et 2. On va la lire, parce qu'en effet, où on voit que Dieu le Père nous choisit, Jésus nous purifie par l'aspiration de son sang et le Saint-Esprit sanctifie. On va la lire, ça sera mieux dit que moi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en note de passage dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie, de Béthynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Alors ça, c'est... 1 Pierre 1,2, dont on voit le Père qui choisit, Jésus qui purifie par l'aspersion de son sang, il accomplit le salut, et le Saint-Esprit qui nous applique ce salut. Hein. Pourquoi pas?
Une salutation épistolaire, quand même. De...
Voilà. Bon, il y a encore d'autres versets dans le Nouveau Testament. Je ne les passe tout juste. D'abord, il y en a bien d'autres et nous y reviendrons plus tard. Alors, on va passer au point 5, les trois affirmations bibliques qui mènent à la Trinité. Donc après avoir survolé dans la Bible la notion de Trinité, qu'on a vu affleurer de manière implicite dans l'Ancien Testament et dévoilée de manière plus claire dans le Nouveau, revenons à ces trois affirmations qui constituent la Trinité pour voir si elles sont chacune séparément vérifiables dans la Bible. Donc, il y a un seul Dieu, chacune de ces personnes est pleinement Dieu, et Dieu est trois personnes. Alors, qui est un seul Dieu, ça apparaît clairement dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'arrête pas de le rappeler à son peuple, qui vit au milieu de plein de peuples polythéistes. Donc, c'est la première révélation que Dieu a voulu marquer pour séparer son peuple de toute l'idolâtrie ambiante. Deutéronome 6, verset 4, qui est devenu la confession de foi d'Israël, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. » Et cette confession de foi, Deutéronome 6, 4. Et cette confession de foi, elle sera reprise même par le Seigneur Jésus dans les évangiles, car il répondra à la question d'un spécialiste de la loi qui lui demande « Quel est le plus grand commandement ?» On retrouve ça dans Marc 12, versets 28 à 31. On le retrouve dans plusieurs évangiles. Et dans Marc, c'est bien... Marc 12, versets 28 à 31. Ouais, Marc chapitre 12, verset 28. « Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui. Il avait entendu cette discussion, avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu, lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. » On voit que c'est parce qu'il est notre Dieu et le seul Dieu, il n'y en a point d'autre, qui requiert notre amour, et suit ensuite l'amour du prochain. Alors, il est parlé dans ce passage d'un Dieu unique et aussi d'amour. Se pose la question de l'amour pour ce Dieu unique. Est-il strictement seul dans son unicité ? On se pose la question, là. On se dit comment il peut être amour. Et se pose, voilà. Mais l'Ancien comme le Nouveau Testament nous affirme clairement qu'il y a un seul Dieu. Et la découverte d'une pluralité en ce Dieu, la Trinité, n'enlève pas qu'il y ait un seul Dieu. Ça n'enlève jamais cette vérité première. Sinon, un dévie vers une hérésie, qui a été assez rare dans l'histoire de l'Église, ça n'a pas été la plus marquante, qu'on appelle le trithéisme. C'est-à-dire qu'on pousse tellement l'idée des trois personnes en Dieu qu'on oublie qu'il y a un seul Dieu, et on en vient à une sorte de polythéisme, de trithéisme, en oubliant l'unité de Dieu. Donc, Alors, il n'y a plus trois personnes à un seul Dieu dans le trithéisme, mais trois dieux qui cohabitent un petit peu. Voilà. Et l'unicité de Dieu dans l'Ancien Testament est l'unicité du seul Dieu créateur de la terre et des cieux, de l'univers entier, le principe de toute vie. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul Dieu d'Israël seulement, ce n'est pas un Dieu régional. C'est-à-dire qu'Israël ne serait pas, lui, monothéiste, parce que ça fait partie de sa confession de foi, et puis les autres peuples autour auraient le droit d'être polythéistes, et c'est chacun croit ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout ce que présente la Bible. Par exemple, quand Salomon proclame une prière de bénédiction lors de l'inauguration du temple, voici ce qu'il dit à 1 Roi 8:60. Ainsi, tous les peuples, suite aux bénédictions que l'Éternel va accorder au témoignage d'Israël, ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, le Dieu de la Bible se présente comme le Dieu unique d'Israël, mais le Dieu de tout l'univers aussi. C'est un culte monothéiste parce que c'est la vérité. Dieu se révèle comme étant le seul Dieu. Donc, en retour, il y a une adoration qui est logique, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil, en Ésaïe 45, versets 5 et 6, « Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu me connaisses, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout, sauf moi, n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a point d'autre. » Là, il s'adresse à son serviteur Cyrus. Mais l'accent est mis sur « il n'y a rien en dehors de Dieu. Quoi. Il est le seul qui existe. » Et le Nouveau Testament poursuit dans la même lignée, à 1 Corinthiens 8:4, Paul, quand il aborde le sujet des sacrifices aux idoles, tout ça, il dit « Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Pareil dans Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 5, « Il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. » Jacques 2,19 dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. » Mais il reprend cette confession de foi en disant « Oui, c'est bien, oui, il y a un seul Dieu. » Après, il parlera des conséquences que ça veut dire dans nos vies, mais c'est autre chose. Mais il affirme ça lui aussi. 1 Corinthiens 8,6 pour finir. Je vais le relire pour finir ce passage-là. Il y a quelque chose d'intéressant dans 1 Corinthiens 8,6. Je crois que je l'avais mis. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc déjà, dans ce verset, on a dans l'affirmation qu'il y a un seul Dieu, identifié au Père aussi. Et on a aussi l'affirmation de la diversité des personnes en Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ça nous fait passer au point suivant, qui est chacune de ces personnes de la Trinité est Dieu et pleinement Dieu. C'est le petit 2 là, on a fait le petit 1 du chapitre 5, on va faire le petit 2, chacune des personnes de la Trinité est pleinement Dieu. Donc on va prendre chaque personne, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, je relis ce passage, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons, dont le Père est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Vous allez le voir, c'est un des livres de la Trinité qui cite « Le Père est Dieu ». Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Puis après, ils font la différence. Donc souvent, ils disent le Père est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Et puis ils disent pareil pour les trois personnes. Dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi le prophète Ésaïe le souligner en Ésaïe 63, verset 16. « Car tu es notre Père, Abraham ne nous connaît pas, et Israël ici c'est Jacob, non plus ne nous reconnaît pas. Pourquoi » Pourquoi ? Parce qu'ils sont morts. « Mais toi, ô Éternel, » parce que lui, il est vivant, « toi, tu es notre Père. » Et ton nom est depuis des temps anciens notre libérateur. Donc on voit déjà, c'est assez rare, dans cet examen, il y a une confession comme Dieu le Père. Et quand Jésus apprend à ses disciples à prier, c'est le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qui leur présente. Alors, la Bible nous enseigne aussi que le Fils est pleinement et entièrement Dieu. Un des passages les plus connus pour ça, c'est le début de l'évangile de Jean. Donc là, on montre les preuves bibliques, puisqu'on est au cercle biblique. La Trinité n'a pas été inventée par des théologiens pour se faire plaisir. Ce mot recouvre des réalités bibliques. C'est juste, voilà. On va lire le début de l'évangile de Jean. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. » Donc on voit que Dieu était avec Dieu. « Au commencement, il était avec Dieu. Tout était créé par lui. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Et puis si on continue plus loin, au verset 14, « Celui qui est la parole, dont on a parlé dans les premiers versets, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par le Père, plénitude de grâce et de vérité. » Et puis au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Donc on voit que cette parole qui est Dieu et qui était avec Dieu, la suite des versets nous révèle que c'est Jésus-Christ qui a été, que le Fils qui a été envoyé, qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ.
Tu peux te faire un petit...
Oui.
Dans les Bibles, moi j'ai à la maison, j'ai une Bible aussi qu'on m'a donnée, un témoin de Jéhovah. Et ils ont, pour, ils ont des subtilités, c'est pas... Il faut chercher, hein. Mais par exemple, dans 1 Jean, à un moment donné, on parle de Jésus, et fils de Dieu, et 1 Jean 4, je crois. Et à, si tu veux, ils mettent, au lieu de mettre Jésus-Christ, ils mettent lui au bout d'un moment, lui. Et puis, le début du chapitre. Après, un début d'un chapitre, il y a marqué Dieu, tu vois. Et si tu veux, ils ont modifié, ils ont mis lui au lieu de Jésus, pour qu'à un moment donné, ça trouble avec le début de notre chapitre où il y a marqué Dieu, pour que ça trouble entre Dieu et Jésus, pour qu'on ne voit pas que Jésus est le Fils de Dieu.
Ouais.
Et au début de Jean, ils mettent il était un Dieu. Ils disent pas
qu'il
était un Dieu.
Oui, alors.
Toute petite chose qu'ils modifient pour dire que Jésus n'est pas Dieu.
Alors, il faut savoir que la Bible, toutes les Bibles sont reconnues. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une Bible traduite par des théologiens catholiques, la Bible de Jérusalem, par des protestants, des Bibles œcuméniques, des Bibles pas orthodoxes, on n'a pas trop en France, je ne sais pas, on connaît moins. Mais toutes ces Bibles-là, les confessions de foi se les reconnaissent mutuellement. Des fois, le vocabulaire change un peu selon la théologie. La Bible des témoins de Jéhovah n'est reconnue par aucune confession chrétienne. Et ils ont une analyse de la grammaire grecque à géométrie variable, comme on dirait. Quand ça les arrange, ils changent des trucs. Puis dans d'autres passages, ils ne changent pas. Là, je n'ai pas étudié exactement, mais voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Elle peut se faire avoir.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, là, on y est exactement. Dans ce que tu dis, les témoins de Jéhovah, on va en parler rapidement, parce que c'est...
leur Bible, tu vois qu'elle a été écrite de façon humaine. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans de ça, j'étais chez quelqu'un qui avait eu une Bible témoin de Jéhovah, il commençait un peu à sympathiser à qui j'avais pu parler de Jésus. Et lui-même, en lisant la Bible témoin de Jéhovah, il m'avait un jour montré qu'en fait, leur Bible, elle est minable, passe-moi l'expression. Parce que du coup, tu vois que c'est écrit humainement, parce que même ils avaient oublié, il oubliait parfois de les minuscules. Et c'est même lui qui me l'avait montré à un moment donné. Il avait découvert qu'il y avait, en parlant de Jésus, qu'il y avait un 2 majuscule. Alors je ne pourrais plus le retrouver. Là, tu as 2 ans, mais j'ai dit, ouais, en fait, leur Bible démontre elle-même que, voilà, que c'est pas une
erreur de fait. Alors, ceux qui mettent le plus en question, on va y venir. Hein. Donc, juste, je prends un autre passage intéressant, puis après, on reviendra au témoin de Jéhovah. C'est en Jean 20-28, il est très connu, là aussi, il le transforme. C'est Thomas qui comprend que Jésus est vraiment ressuscité, après qu'il lui dit « Mets tes mains là, dans mes bras, et dans mes mains et dans mon côté. » Et Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et on voit que la chose très étonnante, surtout pour des Juifs qui ont été élevés dans le monothéisme, l'adoration de Thomas est acceptée par Jésus. L'ange de l'Apocalypse, quand Jean, impressionné par sa gloire, veut l'adorer, il dit « Non, ne m'adore pas, que fais-tu là? Je suis un serviteur comme toi. » À un moment, Pierre et Paul, dans les Actes, plusieurs fois, après avoir été l'instrument de miracles impressionnants, les gens ont envie de les adorer. Chaque fois, ils disent « Non, surtout pas !» Paul, il déchire ses vêtements quand on se met. « C'est des hommes !»« Non, surtout pas !» C'est des dieux, fait homme, surtout pas, on est juste des hommes. Et là, Jésus accepte sans aucun problème, et même, il valide l'adoration de Thomas. Hein. En Tite 2,13 nous présente Jésus-Christ, notre grand Dieu et sauveur. De même que l'apôtre Pierre, ben on l'a déjà dit tout à l'heure, ah non, là c'est dans le deuxième épître, 2 Pierre 1,1. La foi, ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre sauveur, car il est juste. Et je vais finir par un dernier verset, c'est dans l'épître Colossiens 2, chapitre 2, verset 9, qui nous dit « Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite corporellement toute la plénitude de ce qui est en Dieu, ça part de Jésus. Donc au travers de ces quelques versets, nous voyons que le Fils est entièrement et pleinement Dieu. Ce n'est pas un bout de Dieu, ce n'est pas un tiers de la Trinité. Il est à lui tout seul, pleinement Dieu, et ce de toute éternité. On l'a vu dans le prologue de Jean. Hein. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est ce point qui va être très fréquemment attaqué dans les premiers siècles de l'Église, et en particulier par un prêtre et un théologien qui se nommait Arius. Il était de 250 à 336 après Jésus-Christ, qui exerçait à Alexandrie, en Égypte, et on va parler d'arianisme. Et les témoins de Jéhovah sont des descendants de cet arianisme. Ils considéraient Jésus-Christ comme le premier être créé et nier sa préexistence éternelle. Et c'est en se fondant sur les Écritures que des théologiens vont combattre cette hérésie, encore présente chez les témoins de Jéhovah, par exemple, entre autres, et mettre une confession de foi commune, par exemple celle du symbole de Nicée-Constantinople, qu'on verra tout à l'heure, qui a été fait en 325 et 381, ou celle du symbole d'Athanase, dit d'Athanase, qui a été écrite en 500 à peu près. Donc voilà, c'est une hérésie. À chacune de ces trois affirmations, il y a une hérésie qui s'y oppose. Une ou plusieurs. Là, je vous prends vraiment les principales hérésies. Hein, c'est les plus connues. Hein. L'hérésie d'Arius, elle a fait des dégâts. À un moment, l'Église chrétienne a failli se faire avoir dans sa grande majorité. Heureusement qu'il y a eu des théologiens qui ont tenu ferme et que le Seigneur a dirigé tout ça. Mais ça a fait des dégâts. Alors, qui est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament? Bon, ben, d'après les chrétiens et d'après la révélation qu'on envoie de la Bible, c'est le Dieu incarné. La deuxième personne de la Trinité, le Fils qui est venu parmi nous et qui est devenu un homme pour nous sauver. Mais même Arius ou les témoins de Jéhovah croient jusqu'à un certain point qu'on est sauvé par Jésus-Christ, mais pas qu'il est pleinement Dieu de toute éternité, de la même nature et de la même essence que le Père. Or, dans l'Ancien Testament, chose intéressante, on voit que Dieu dit qu'il va venir lui-même sauver son peuple et qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Et en fait, Dieu prédit ça. Et qui va venir à la place de Dieu? Ben, c'est Jésus-Christ qui identifie à l'Éternel. Alors ça, on le voit pas mal dans Ésaïe. On va tourner dans Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. On entend une voix qui crie dans le désert, « Dégagez un chemin pour l'Éternel, niveler dans la steppe une route pour notre Dieu. » Et puis si on continue au verset 9 à 11, « Sion, messagère d'une mon nouvelle, ravie une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messagère d'une mon nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici notre Dieu vient, voici l'Éternel, il vit avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté, voici ses récompenses avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera les agneaux dans ses bras, sur son sein il les porte. » On voit que c'est Dieu qui dit qu'il va venir et qu'il va sauver. Comme un berger, ça nous rappelle Jean 10, « Je suis le bon berger. » Dieu qui était le berger d'Israël, Jésus s'identifie. Et puis, si on va en Marc, au tout début de Marc, les tout premiers versets de Marc. Alors, on va relire Ésaïe 40, verset 3. On entend une voix qui crie dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, niveler une steppe, une route pour notre Dieu. Et puis si on lit Marc au tout début, c'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Le Seigneur pour qui le chemin est préparé, dans Ésaïe, c'est l'Éternel, dans Marc, c'est Jésus. Oui, Jérémy.
Est-ce que la Trinité,
oui,
c'est un mot qui a été pas inventé, en tout cas.
Qui a été trouvé,
est-ce qu'il existait avant ou pas, ce justement. Est-ce qu'il est employé pour d'autres, pour une autre trinité?
Oui, sûrement, parce qu'en fait, ça veut dire trois, tout simplement. Hein. Mais après, il a pris un concept théologique. Mais dans le fond, ils ont pris, comme par exemple, quand on parle de l'essence de Dieu, et c'est l'être, ou les trois personnes de Dieu, ils ont pris dans le vocabulaire existant pour essayer de décrire ce qu'ils avaient vu de Dieu dans la Bible. Quoi. Voilà.
C'est curieux qu'il n'y soit pas ce mot, quand même.
Il n'y a pas le mot incarnation non plus.
Il n'y a pas le mot enfer non plus.
Ouais, ouais, tout à fait. Il y a plusieurs mots comme ça qui ne sont pas, mais. Dieu n'a pas fait. La Bible n'est pas un traité de théologie systématique. Dieu s'est révélé tout au cours de l'histoire à des moments donnés, et souvent, par exemple, les épîtres de Paul ou d'autres répondent à des besoins. On a aussi l'histoire du salut, on a l'histoire de l'évangile. L'Apocalypse répond aux besoins de l'Église, des gens de l'Église de l'époque, et à nos besoins aussi. Je veux dire, Dieu s'est révélé dans des circonstances et dans de l'histoire. Mais il n'y a pas de théologie systématique dans la Bible. Et après, il a fait des docteurs dans l'Église, et ces docteurs-là, ils ne rajoutent pas à la Bible, mais juste, finalement, Dieu les a équipés pour nous faire mieux saisir ce que... Des fois, ils vont rassembler ce que dit la Bible sur un sujet, tout simplement. Quoi. Là, on parle du sujet de Dieu lui-même, comment il s'est révélé, et on se rend compte qu'il y a ces trois propositions, il y a un seul Dieu... Et puis, chacune, il y a trois personnes en Dieu, et chacune de ces personnes est pleinement Dieu. Et comment on peut mettre tout ça ensemble? Dans le fond, on n'y peut pas vraiment. Mais on a trouvé un mot technique. Ils ont trouvé un mot technique qui est la Trinité, qui est peut-être imparfait. Mais si on repartait à zéro, il faudrait que nous, on s'amuse à chercher un autre mot pour notre époque. Et on risquerait de retomber dans les mêmes erreurs parce qu'ils ont tâtonné avant d'arriver à ça, à combattre toutes les hérésies. Et là, on peut s'appuyer sur ce qu'ils ont fait et qui a été reconnu tout au long de l'Église.
C'est le mieux, trois en un.
Donc, on voit, comme on a vu, que nous ne devons pas notre salut à une créature, aussi prestigieuse et ancienne soit-elle, ce que croyait Arius, donc, et même si elle avait la première place, elle resterait une créature, donc, différente du Créateur, différente de Dieu. Nous sommes sauvés par Dieu lui-même, en la personne de son Fils, non pas créé, mais engendré, c'est-à-dire de même nature de toute éternité. On y reviendra ça plus tard. Nous pouvons donc dire que le Fils est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Et quant au Saint-Esprit, c'est le petit point 3, la troisième personne de la Trinité, ce n'est pas une force, c'est un petit peu la tentation qui a été, par rapport au Saint-Esprit, il a des fois été pris pour une force. Ce n'est pas une force, mais une personne, et elle nous est présentée comme telle dans les Écritures, et elle est présentée comme pleinement divine. C'est pour cela que la formule trinitaire pour le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'associe pleinement au Père et au Fils. L'apôtre Pierre, lorsqu'il reprend Ananias pour son mensonge en Actes 3.5, dit clairement qu'en mentant au Saint-Esprit, c'est à Dieu qu'Ananias a menti. Hein. On va appeler, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu, puis plus tard, c'est au Saint-Esprit que tu as menti, ou l'inverse, je ne sais plus. 1 Corinthiens 3.16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, dans l'endroit où Dieu habite, hein, le temple, c'est toujours été ça, et que l'Esprit de Dieu habite en vous, donc en étant la demeure du Saint-Esprit, l'Église est le temple de Dieu, cela met Dieu lui-même et l'Esprit de Dieu au même niveau. On le voit, hein. Le Saint-Esprit est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Sa personne a souvent été attaquée après le Fils. Arius aussi ne considérait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait que Dieu le Père qui était pleinement Dieu dans l'arianisme. Et c'est pareil chez les témoins de Jéhovah, il n'y a que Dieu le Père. On peut nous affirmer d'après la révélation que Dieu donne de lui-même dans la parole que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a un seul Dieu. On en vient à la dernière affirmation, Dieu est trois personnes distinctes, mais un Dieu, trois personnes et un seul être. Alors ça, cela signifie, vous le verrez souvent noté comme ça, si vous étudiez dans des théologies systématiques, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas la même personne avec trois noms différents, mais que le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ok ? Vous verrez souvent, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. La Bible affirme cette distinction entre les trois personnes de la Trinité à plusieurs reprises. Ben, comme on l'a lu tout à l'heure au tout début de l'évangile de Jean, hein, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc de toute éternité, on voit Dieu avec Dieu. Dieu le Père avec Dieu le Fils. Et évidemment, cela continue, ça, c'est éternel, ça continue actuellement, ça a été éternellement et c'est maintenant. Un Jean 2:1, si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. On voit Dieu le Père avec Dieu le Fils. On voit donc distinction de deux personnes dans la Trinité. Et dans tout l'évangile de Jean, Jésus... Alors, s'il y a un... Tout à l'heure, à la fin, je vous donnerai une petite biographie. Et puis, je pourrais rajouter d'ores et déjà l'évangile de Jean. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que ça suinte la Trinité de partout. La relation entre le Père et le Fils. Jésus emploie fréquemment les pronoms « je »,« tu »,« nous » pour parler de sa relation avec le Père. Beaucoup dans les chapitres 14 à 17, mais pas que, hein. Par exemple, Jean 17, versets 22 à 24. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, qui contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Ça me semble assez clair.
Et ce que tu avais cité au début aussi pour Abraham, aussi, aux
chaînes de Mamré.
Quand les trois viennent le visiter.
Ouais. Oui, alors là, c'est pas si clair que ça, parce que les deux autres anges qui partent sur Sodome, en laissant Abraham continuer à parler avec l'ange de l'Éternel, je crois qu'il y a l'ange de l'Éternel et deux anges avec. Donc voilà, dans tout ce grand discours de Jésus, il parle de sa relation avec son Père, et il montre la distinction des deux personnes. Il y a relation. Pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait distinction entre deux personnes. C'est aussi dans ce discours que la venue du Saint-Esprit, son envoi est annoncé, en Jean 14, verset 26. « Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, donc on a le Saint-Esprit, on a le Père, et on a dans le nom de Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Ou Jean 15, verset 6, quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Alors ces deux versets qu'on vient de lire, entre autres, montrent que le Saint-Esprit est distinct du Père et du Fils. Il montre aussi, on l'avait déjà vu tout à l'heure, qu'on avait abordé la divinité du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas une force mais une personnalité. Il enseigne, il rappelle, il témoigne. On a vu aussi qu'il pouvait être attristé dans notre passage. Dans les actes, on peut voir qu'il parle. Il parle à Philippe en lui disant « Voilà ». En lui parlant du char de l'Éthiopien, il parle quand il y a le choix de Paul et de son collègue, je ne me rappelle plus, dans Acte 13, quand ils sont choisis à Antioche, le Saint-Esprit par là, il leur dit « Mettez-moi à l'écart Paul et Barnabas, merci Lambert. » Voilà. Donc, il est pleinement Dieu et distinct du Père et du Fils. J'insiste encore, ce n'est pas une force, c'est important. Évidemment, il y a le passage classique qu'on a déjà lu sur le baptême de Jésus, où on voit le Père qui parle de son Fils, pendant que le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe. On a, comme je disais tout à l'heure, le passage de la transfiguration, où dans la nuée qui représente le Saint-Esprit, le Père s'adresse au Fils. Certains voient dans Apocalypse 22:1, je vous le cite, Apocalypse 22:21, « Finalement, l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » On voit une manifestation de la Trinité. Il y a un seul trône pour Dieu et l'agneau, d'où le fleuve de vie, le Saint-Esprit, jaillit. Ça a été aussi vu comme une image de la Trinité. Donc, quand cette affirmation a été niée dans l'histoire de l'Église, on a parlé soit de sabellianisme, d'après Sabellius, un théologien romain du IIIe siècle, qui niait qu'il y ait trois personnes distinctes en Dieu, ou du modalisme. Parce que dans cette pensée, il y a un seul Dieu qui se manifeste de différentes manières selon les époques. En fait, il change de nom, quoi. Il est Père dans l'Ancien Testament, il est Jésus dans les Évangiles, il est Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Ou selon les moments, soit selon les périodes de l'époque, ou selon les moments. Par moment, Dieu est Père, par moment, il est Fils, par moment, il est Saint-Esprit. On appelle ça du modalisme, différents modes de manifestation. Alors, cette doctrine a été combattue pour maintenir la vérité. Et tous ces passages où nous avons vu Dieu, le Père et le Fils interagir, ou avec le Saint-Esprit aussi, On l'a vu dans vous étiez les trois en même temps. On voit aussi que le Saint-Esprit intercède pour nous. Vous vous rappelez, dans Romains 8, et dans nos gémissements, le Saint-Esprit prie pour nous, où on le voit qu'il nous pousse à crier Abba Père. Dans tous ces passages, nous voyons que, en fait, il y a plusieurs personnes distinctes de la Trinité qui ont relation entre elles. Alors, souvent, toutes ces hérésies qu'on a vues, que ce soit le trithéisme, l'arianisme, que maintenant on retrouve chez les témoins de Jéhovah, où on nie la divinité, ou la pleine divinité de Jésus ou du Saint-Esprit, ou le modalisme, elles ont été mises en place pour accommoder le Dieu éternel à notre raison, hein, tout simplement. Mais Dieu nous demande d'accepter les faits de sa révélation, même s'il nous dépasse. Et personnellement, je trouve que c'est rassurant que le Dieu infini et éternel nous dépasse. Si on arrivait à le comprendre dans notre petit cerveau fini, est-ce qu'il serait vraiment un Dieu si glorieux que ça, quoi? Eh bien, ceux qui n'ont pas... ils sont encore restés monothéistes, d'un monothéisme strict, quoi. Une unicité stricte, ceux qui n'ont pas reconnu le Messie. Ceux qui sont restés dans la religion juive...
Oui, je parle de cela.
Ben non, pour le moment, ils n'ont pas encore eu la révélation, quoi.
Ils ont des sphères, il y a l'émanation... Il y a Dieu et ses émanations, voilà. La sagesse, l'esprit, l'ange de l'éternel, mais ils ne sont pas à dire que la sagesse est Dieu ou que l'ange de l'éternel est Dieu, comme, etc. Ils sont toujours quand même à dire qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle d'ailleurs, il ne faut pas prononcer son nom, hein. Voilà, Hachem, ça veut dire le nom. Quand ils écrivent Dieu, ils écrivent avec un D majuscule, avec un point, voilà, il ne faut pas dire le nom. Personne ne sait plus comment se prononce le nom de Dieu qui s'est révélé à Moïse. Hein. Donc nous, on dit Yahvé, eux, ils disent le Seigneur. Voilà, le Seigneur, la chaîne. Ou celui qui a créé le ciel et la terre, béni soit-il. Voilà, c'est ça qu'ils parlent de Dieu.
Et c'est marrant ça, parce que dans l'Apocalypse de Jean, qui est juif, même si évidemment il est chrétien, on voit que quand il décrit Dieu dans les chapitres 4 et 5, je fais une petite parenthèse, c'est très intéressant quand on voit qu'il décrit Dieu sans jamais nommer Dieu. Celui qui trône sur le siège, celui qui... C'est riche d'images aussi, c'est très intéressant. Alors, en passant, s'il n'y a pas trois personnes distinctes en un seul Dieu, cela veut dire qu'il n'y a pas de relation en Dieu. Dieu ne peut pas être amour de toute éternité. On y reviendra plus tard quand on abordera les conséquences de la Trinité pour notre vie. Là, on va passer à l'approche historique de la Trinité, des confessions de foi. Alors, je vous ai donné deux annexes. On va commencer par l'annexe, la dernière annexe de la page 3. Hein. Donc, ces trois affirmations, Dieu est trois personnes. Hein. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit aussi. Donc, et chaque personne est pleinement Dieu. Donc, finalement, si les trois sont pleinement Dieu, ici, aucun des deux, des trois n'est l'autre, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, ça va être leur relation. Dans la doctrine de la Trinité classique, c'est la relation qui distingue les trois personnes dans le sein de la Trinité. Ce n'est pas ce qu'ils font, c'est la manière dont ils interagissent, comment ils sont éternellement en relation. Et puis aussi, il n'existe qu'un seul Dieu, évidemment. Donc, on a vu qu'elle se retrouve donc dans la révélation que Dieu donne de lui-même dans la Bible. Mais des théologiens ont été amenés à trouver le terme « trinité » et à formuler des confessions de foi pour répondre à des attaques contre ces vérités bibliques, ce que l'on appelle les hérésies, c'est-à-dire des déviations par rapport à l'enseignement biblique qu'on a rapidement vu dans les trois principales. Je vous disais, c'était le trithéisme par rapport à « il y a un seul Dieu », l'arianisme, ou ce que croient maintenant les témoins de Jéhovah par rapport au fait que les trois personnes sont Dieu, dont on pense qu'il n'y a que le Père qui est Dieu. Finalement, les autres ne sont pas vraiment des dieux, ce sont des mini-dieux. Ils ont été créés par Dieu, ils n'ont pas la pleine divinité. Ou le modalisme, quand on ne veut pas croire qu'il y a trois personnes distinctes en Dieu, mais que Dieu se révèle différemment selon les moments, mais que ce n'est pas vraiment trois personnes en un seul Dieu. Et la première confession de foi qui exprime clairement et de manière concise ce que les théologiens ont découvert dans la Bible, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Alors, c'est deux villes qui se trouvent en Turquie, qui ont changé de nom depuis. Nicée, ça a été en 325, et Constantinople en 381, qui approfondit ce qu'avait fait Nicée. Alors, on va le lire. Je Je ne sais pas s'il y en a exactement la même, mais je pense que oui. Hein. Document 2. Et en dessous, le triangle est assez intéressant. Vous voyez ce triangle, en dessous? Ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Un schéma assez simple. Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit, Dieu est Père, mais le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. OK?
Peut-être pas se focaliser sur la figure du triangle, on aurait pu faire ça dans un cercle.
Oui, je sais, il y a des, je vous montrerai, dans ce livre, il y a un cercle, et dans notre livre, il était mieux, mais je n'ai pas réussi à le trouver sur Internet. J'aurais préféré le cercle, mais...
Le triangle, je vais penser aux francs-maçons, si tu veux.
Ah oui, d'accord.
Le créateur, etc., il peut représenter par un triangle.
Oui,
donc,
oui,
se
oui.
Focaliser sur la figure. Hein.
C'est vrai, oui, tout à fait. Le seul avantage du triangle, c'est que si on se focalise plus sur un angle que... sur le centre,
oui.
On va accentuer que sur le Père ou que sur le Fils ou que sur le Saint-Esprit, et c'est là où les hérésies vont naître, souvent. Donc,
il est intéressant le triangle quand on se marie aussi, quand on te dit, voilà, toi tu es là, ta femme elle est là, et tu as Dieu aussi, tu es en relation.
La corde à trois brins, ouais. Symbole de Nicée-Constantinople. Donc, alors juste ces symboles-là. Des fois, vous verrez employer le mot catholique, ça veut dire universel, ça ne veut pas dire catholique romain, hein, ça veut dire universel. À l'époque, il n'y avait pas encore les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Et puis, l'église de Rome, même si elle commençait à avoir de l'importance, n'avait pas la prépondérance qu'elle a maintenant, ça n'avait rien à voir. Hein. Il y a eu une époque où Irénée, l'évêque de Lyon, a repris l'évêque de Rome en lui disant non, mais là, ça ne va pas ce que tu dis. Ce n'était pas la même chose que maintenant. Hein. Voilà, juste voilà, pour soyez décontractés avec le terme catholique, ça veut dire universel. Et puis, ces symboles-là ont été reconnus par les mouvements protestants. Quand il y a eu la réforme, ils ont repris ces symboles, ils ont validé en disant qu'ils étaient bibliques. Hein. Donc, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Donc on voit que là, le point, c'est engendré du Père avant tous les siècles, non créé et consubstantiel, c'est-à-dire de la même substance que le Père. Il y a une seule substance ou une seule essence et trois personnes. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux par le Saint-Esprit, il s'est incarné de la Vierge Marie, il s'est fait homme, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, il reviendra en gloire juger les vivants et les morts, lui dont le règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, j'accentue sur les trucs de la Trinité, hein, qui est Seigneur et qui vivifie, qui procède, ça veut dire qui vient tout simplement. Des fois, les théologiens parlent aussi d'effusion ou de spiration, c'est le souffle de Dieu. Le Père qui souffle l'Esprit, le Fils qui souffle l'Esprit, qui ensemble avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et à une seule Église sainte, catholique et apostolique. Donc, et apostolique, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'enseignement des apôtres que nous voyons dans le Nouveau Testament, tout simplement. Nous confessons un seul baptême pour la rémission. Voilà, en gros, ce symbole de Nicée-Constantinople. Alors, je vais vous lire deux extraits d'un livre très intéressant. Je ne sais pas s'il se trouve encore. Rendez-vous avec la Trinité, notre communauté première, Darrell Johnson. C'est un théologien évangélique qui est professeur de théologie à la faculté de Vancouver. Et voilà ce qu'il dit. Alors, je vais vous lire deux extraits sur engendré et sur procédé par le Saint-Esprit. Notez bien les termes engendré et procède. Ils indiquent l'unicité de chacune des personnes de la Trinité. Comme Paul Jewett l'explique, la première personne est unique en ce que le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. La deuxième personne est unique entre ce que le Fils est engendré du Père. La troisième personne est unique en ce que l'Esprit seul procède du Père et du Fils. Le Père est la première personne de la Trinité, non parce qu'il est antérieur à la deuxième et à la troisième dans le temps, mais parce qu'il est la source de la distinction que nous appelons Fils ou Esprit. Les verbes engendrer et procèdent sont accompagnés d'une précision cruciale. Le Père a été éternellement la source de la distinction avec le Fils et éternellement la source de la distinction avec l'Esprit. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Là encore, C.S. Lewis nous vient en aide dans l'une de ses causerie radiodiffusée sur la Trinité, il fait cette remarque. Et là, il cite Lewis. En langage moderne, nous n'utilisons guère les mots engendrer ou engendrer ER ou engendrer E, mais chacun en connaît le sens. Engendrer, c'est devenir père, tandis que créer, c'est faire ou fabriquer. On engendre quelque chose de même nature que soi. Un homme engendre des enfants, un castor engendre des petits, un oiseau des œufs qui se transforme en oisillon. Mais créer, c'est faire quelque chose d'une nature différente de soi. Et la distinction entre engendrer et créer est énorme. Lewis poursuit, ce que Dieu crée n'est pas Dieu, tout comme l'homme ne peut créer un autre homme. Ce qui est engendré de Dieu est Dieu, tout comme un homme s'engendre de notre homme. C'est pourquoi le Fils unique engendré de Dieu est Dieu. Voilà. Mais si vous et moi, nous avons été engendrés par nos parents dans le temps, Dieu le Fils est éternellement engendré de Dieu le Père. Comme le dit l'apôtre Jean dans 1,18, la parole a toujours été le Fils unique de Dieu, éternellement dans le sein du Père. La propriété incommunicable de la deuxième personne, c'est d'être éternellement engendré. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais eu un moment de l'éternité où le Fils n'a pas été Fils. Il n'y a jamais eu un moment de l'éternité où le Père n'a pas été Père. Il n'y a pas un moment où le Père a engendré le Fils. Il est éternellement engendré. Ça nous dépasse. Hein. Là, on est en train de parler de Dieu. Quoi donc ? Oui.
Mais j'avais lu un truc qui disait que créer, c'est même. En fait, ça ne veut rien dire pour nous. Parce que créer, c'est faire à partir de rien, à la base.
Oui.
Et qu'en gros, nous, on ne crée rien parce qu'on a de la matière. Dans nos mains. Enfin, voilà.
On crée plus petitement que ce que Dieu crée. On ne crée pas de la même manière que Dieu crée.
Ouais, c'est.
Voilà. On peut l'employer quand même parce qu'on est à l'image de Dieu et ça reflète un peu ce que Dieu a fait, mais avec une autre puissance. Voilà. Et par rapport au Saint-Esprit, cette éternité du Fils est aussi le cas de l'Esprit. La propriété incommunicable de la troisième personne et sa procession éternelle. Tout comme engendrer, procéder ne signifie pas créer. Ce que Dieu crée n'est pas Dieu. Ce qui procède de Dieu est Dieu. L'univers ne procède pas de Dieu, c'est une création de Dieu, quelque chose qui n'est pas lui-même. Il y a toujours une distinction entre la créature et le créateur. La procession ou effusion, comme disent certains, est un souffle divin. Le Père et le Fils soufflent éternellement et ce souffle, c'est l'Esprit. Est-il surprenant que le terme de la Bible, que la Bible utilise pour désigner l'Esprit signifie seulement, littéralement souffle, c'est roi dans l'Ancien Testament ou pneuma dans le grec, hein. Ou vent, Dieu le Saint-Esprit de toute éternité, le souffle de vie de Dieu, le Père, de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Alors Saint Augustin au IIIe siècle, écoutez ce que dit Saint Augustin, tout le monde n'est pas complètement d'accord avec ça, mais c'est lui qui a beaucoup déterminé les relations de la Trinité. Passa toute sa vie chrétienne à réfléchir sur la Trinité, vous parlez d'aimer Dieu de toute sa pensée. Augustin finit par comprendre les trois subsistances en une essence, alors les trois subsistances et les trois personnes, hein, en une essence en termes d'amour. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et d'après Augustin, le lien d'amour entre le Père et le Fils est justement l'Esprit. C'est-à-dire cette relation est tellement forte qu'elle est elle-même une personne. C'est la pensée de Saint Augustin sur la Trinité. Là encore, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On voit que l'Esprit, d'autres théologiens disent que Dieu aime le Père par l'Esprit, le Fils aime le Père par Dieu. L'Esprit est celui qui nous communique l'amour de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'amour et de la joie. Hein. L'union entre le Père et le Fils est si concrète et vivante, ça c'est C.S. Lewis, qu'elle-même est également une personne. Je sais que c'est presque inconcevable, mais considérez-le d'après ce qui suit. Lorsqu'on se réunit dans une famille, un club, un syndicat, on parle souvent de l'esprit de cette famille, de ce club ou de ce syndicat, parce que les individus ainsi réunis se comportent et conversent autrement que lorsqu'ils sont seuls. Cette conduite corporative peut être meilleure ou pire que le comportement individuel des membres. Une personnalité commune émerge du groupe, ou plutôt quelque chose qui rappelle la personnalité. Voici justement l'une des différences entre Dieu et nous. Ce qui jaillit de la vie commune du Père et du Fils est une personne véritable, la troisième des trois personnes qui sont en Dieu. Voilà un petit peu comment c'est expliqué. Je ne sais pas si on lit le symbole d'Athanase. Alors, Athanase, ça a été ce qu'il est après. On va peut-être en lire des bouts, quand même. Athanase, c'est celui qui a le plus combattu Arius. C'était un simple diacre au départ. Puis, il a pris une place très grande pour combattre l'hérésie d'Arius. Athanase, il était à la fin du 3e et puis il est mort en 373. Mais ce qu'on appelle le symbole d'Athanase, il a été écrit vers 500. Donc c'est d'après ce qu'il a dit lui. Hein. Alors, quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Ah, c'est tout simplement croire dans ce que dit la foi catholique. C'est la foi universelle de l'Église, hein, voilà, qui est révélée dans le Nouveau Testament. Hein. Bon, voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni diviser la substance, c'est-à-dire diviser l'essence, hein. Autre en effet, et en effet la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit, mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale la gloire coéternelle, la majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit. Incréé le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit. Infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit. Éternel est le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit. Cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Tout comme ils ne sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit. Et cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne et n'est ni créé ni engendré. Le Fils n'est issu que du Père, il n'est ni fait ni créé mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait ni créé ni engendré, mais il procède. Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois Pères, un Fils, non pas trois Fils. Un Saint-Esprit, non pas trois Saint-Esprits. Dans cette Trinité, il n'y a rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit. Mais les personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales. Si bien qu'en tout, comme on l'a déjà dit plus haut, on doit vénérer et l'unité de la Trinité et la Trinité dans l'unité. Je m'arrête là pour le symbole d'Athanase. D'abord, je vous ai donné que ça. Il y a une suite du symbole qui parle de la personne de Jésus, son humanité, sa divinité. Mais là, je voulais mettre que sur la Trinité. Et les confessions de foi réformées ont reconnu la même chose. Des fois, je vais juste vous lire un petit truc. C'est la confession de foi de La Rochelle sur la Trinité. Je ne vais pas vous la lire au complet. C'est la confession de foi des protestants, des réformés français. Et donc, ils reprennent un peu avec des mots différents. Ils mettent plus de versets et c'est plus court. Et à la fin, il dit « Nous acceptons donc sur ce point les conclusions des conciles anciens. » Et repoussons toutes les sectes et hérésies qui ont été rejetées par les saints docteurs comme saint Hilaire, saint Athanase, saint Ambroise, saint Cyril. C'est Calvin qui a rédigé cette confession. Et je vais vous lire une autre, juste rapidement, un petit point sur... C'est la confession de foi baptiste et réformée qui dit sur la Trinité, dans cet être divin et infini, il est trois... Alors là, il est trois subsistances, ça veut dire trois personnes. Subsistance et substance, c'est différent. Et c'est pour ça que ce mot est souvent peu employé. Le Père, la parole ou le Fils, le Père, la parole ou le Fils, le Saint-Esprit, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité, chacun possède toutes les sens divines, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Voilà.
Il y a deux affirmations là, pour entrer dans le symbole d'Athanase, peut-être qui résument un peu ça. C'est sans confondre les personnes, sans diviser la substance. Donc, sans confusion, sans division.
Voilà.
Si on veut essayer d'expliquer un petit peu la Trinité. Sans confusion des personnes, sans les diviser non plus.
Voilà, exactement.
Donc, les deux rails, un petit peu que expliquer.
Oui, tout à fait. Donc voilà, vous voyez, ces symboles sont riches et à relire, parce que c'est... Voilà. Ça leur a pris du temps à mettre tout ça au point. Et je ne sais pas comment on dit là des fois que Dieu fait des lignes droites avec des courbes. Parce que ces symboles, ces consignes ne sont pas toujours passées dans la plus grande paix. Mais Dieu a appointé des hommes qui ont réussi à maintenir sa vérité. Eh ?
Beaucoup de colère.
Oui, beaucoup de colère. De... Voilà, il y a eu des choses. Voilà.
Comment alors. Ils ont crucifié le Père.
Quelques conséquences du fait que Dieu soit un être trinitaire. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une relation parfaite au centre de l'univers, un Dieu communautaire. De toute éternité, Dieu est une communauté, un être parfaitement rationnel. Il y a trois personnes distinctes, chacune pleinement Dieu, mais un seul Dieu. Il y a donc unité dans le multiple. Là, quand on cherche, il y a unité dans le multiple, ça nous parle dans l'univers aussi, ça. Alors, quand Paul en vient à parler des dons spirituels, par exemple dans les chapitres 12 à 14 de 1 Corinthiens, il va rappeler au chapitre 13 que ce qui devrait régir l'expression des dons, le motif dans lequel ces dons devraient être utilisés, c'est l'amour. On ne peut pas séparer 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour des deux autres chapitres. C'est dit, en fait, vous voulez exprimer les dons, mais l'essentiel, c'est dans l'amour. Si ce n'est pas fait dans l'amour, ça ne sert à rien. Donc, le relationnel prime. Et dès le début de ce passage, de ces trois chapitres, vous allez voir ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Mais ouais, je vais vous le lire. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Voilà, c'est Jésus, hein, le Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Donc, en fait, Paul montre qu'il peut y avoir diversité. Il y a toutes sortes, trois fois il le dit, dans l'unité, le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est déjà le cas en Dieu. En fait, il utilise une image trinitaire pour exhorter les Corinthiens à la Trinité, à l'unité, excusez-moi. Parce que c'est déjà le cas en Dieu. Il y a le Dieu trinitaire qui est le donateur et en qui il y a diversité dans l'unité. Donc vous voyez, il va se servir de montrer qu'il est possible d'avoir diversité de dons dans l'unité parce qu'il y a déjà diversité en Dieu et volontairement il utilise la Trinité pour exhorter les Corinthiens à cela. Pareillement, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, pareil, là il parle d'unité et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il prend la Trinité comme exemple. Il ne dit pas, voilà, je prends la Trinité comme exemple, mais ça ressort. Chapitre 4, versets 1 à 6. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été appelé. » Et vous allez voir la manière digne. « Soyez toujours humble, aimable et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Que du relationnel, que des exhortations au niveau relationnel. « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. » De même, Dieu vous appelait à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Donc on voit pareil, on a l'image de la Trinité, il y a une formule trinitaire, il y a le Père, il y a l'Esprit, il y a le Seigneur, pour faire appel à l'unité. De l'unité qui règne à la Trinité est la source de la nôtre. C'est ce qu'est en train de leur dire Paul. C'est ce que dit très explicitement Jésus lorsqu'il prie son Père en Jean 17, 11, qu'il soit un comme nous le sommes, et qu'il réplique plus tard en Jean 17, versets 20 à 23. On va lire tout le passage de Jean 17, pas tout, le verset 20 à 26, parce que c'est super riche. On arrive à la fin. Hein. 17, 20 à 26. Parce que là, c'est... On voit que dans ce passage, on va voir que la raison pour laquelle nous sommes aimés de Dieu, introduits dans sa vie, envoyés comme témoins, tout ça se trouve dans la Trinité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Donc là, Jésus, après avoir prié pour lui-même et pour ses disciples, prie pour nous, pour ceux qui vont croire. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, unité fondée sur l'unité entre le Père et le Fils, et unité qui va témoigner, qui va être en elle-même une évangélisation, qui va montrer qui est Dieu, quoi, qui va montrer qu'est-ce que l'évangile. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme moi et toi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. On est introduit dans l'amour de Dieu. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai et qui contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Donc là, on a vraiment... on a tout là. On a le fondement de l'amour. On a le fondement de l'évangélisation. Du...
Il n'y a pas l'esprit, si
Ben, je t'ai fait connaître à eux, je continue à te... pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. C'est par l'esprit que Jésus est en nous, quoi. Dans le sens, l'esprit, et à un moment, il y a d'autres passages qui le disent, que le Père et le Fils vont faire notre demeure en nous. Et ils font notre demeure en nous par l'esprit. L'esprit est celui qui nous communique l'amour de Dieu. Donc, il n'est pas cité explicitement, mais implicitement, le fait que moi-même, je sois en eux, c'est par l'esprit que Jésus-Christ est en nous, quoi.
Je... Oui, oui. Alors après, il parle du consolateur qui viendra, mais c'est
oui, tout à fait.
Jean, il dit, je vous enverrai un autre moi-même, un autre comme moi, le consolateur, qui prendra de ce qui est à moi et qui vous l'annoncera. Voilà, et donc c'est vraiment pas la force, comme tu disais, mais c'est dans sa relation avec, avec Jésus important.
Un autre passage de ce discours de Jean, le discours de 13 à... C'est dans Jean 15, on va voir sur le désir qu'a Dieu de nous introduire dans cette relation d'amour, de joie, une relation dynamique qu'il vit de toute éternité en lui-même. C'est dans la Trinité, en fait, c'est dynamique. Hein. Des fois, il y a des gens qui ont employé le terme de périchorèse, c'est-à-dire il y a comme une danse, il y a de communion. Chaque personne est tournée vers l'autre et ça circule, la vie circule. Et c'est dans Jean 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Donc on voit qu'on est... Jésus aime comme il est aimé. Et puis on continue. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Donc... à l'image de la Trinité. Puis au verset 11, on voit qu'on est introduit dans cette joie. Il y a un désir du Seigneur de nous introduire dans la joie qu'il y a de toute éternité dans l'éternité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous fais part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Là aussi, on est introduit dans la communion de la Trinité. Dieu nous fait participer à sa vie. Dieu nous fait participer à ses projets. Dieu nous révèle qui il est. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Voici que je vous demande, aimez-vous les uns les autres. Donc on voit toute la vie trinitaire de Dieu à laquelle on est invité. L'amour dont nous bénéficions, la joie que nous bénéficions par le Saint-Esprit. Tout cela était en Dieu de toute éternité. Et Dieu l'a partagé avec nous, en fait, c'est tout simplement ça, hein. Ça nous relâche quand nous adorons le Seigneur aussi. Dieu n'a pas besoin d'être adoré par nous de toute éternité, pas besoin d'être aimé par nous, dans le sens pas besoin que Dieu n'a pas besoin de nous de toute éternité. Il est pleinement satisfait, plein de joie, plein d'amour en lui. Donc quand nous allons à l'église rendre un culte, nous sommes des co-adorateurs. Okay, on y va dans ce sens-là, dans le sens, oh mince, on a mal adoré Dieu, le pauvre Dieu, non, c'est pas ça, hein. Je pense que c'est clair. Hein.
Je pense que c'est vraiment important parce que bon, on entend parfois des prédications et j'ai pu moi-même le dire d'ailleurs. Hein, bien que si Dieu a créé l'homme, c'est parce qu'il y avait comme une espèce de manque en lui et donc il avait besoin d'un vis-à-vis. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de manque en Dieu. Il est pleinement satisfait en lui-même. Il y a l'amour, comme tu disais, Dieu est amour. Donc en lui-même, il y a cet amour. Il n'y a pas besoin de créer quelque chose d'extérieur à lui pour pallier d'un manque. Et ça, je trouve que c'est tellement important de dire ça. Quand on dit « Dieu a besoin de toi », c'est vrai dans un sens, mais c'est faux dans un autre. Parce que Dieu n'a... Si on dit que Dieu a un besoin, ça veut dire qu'il y a un manque en lui, alors qu'il n'y a pas de manque en lui.
Il est pleinement...
Il est complètement complet en lui.
Exactement.
Donc, en fait, c'est la grâce qui nous permet, comme tu l'as dit, de nous introduire dans cette plénitude, complétude. Il nous introduit. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être là, dans la louange, Il y a des chants qui centralisent sur l'amour que Dieu a pour l'homme. Et je pense que c'est bien, Dieu aime l'homme, c'est marqué. Mais avant tout, l'amour que Dieu est dirigé vers lui-même, en quelque part. Et ça, c'est tellement plus enrichissant.
Exactement.
Et par grâce, on est introduit dans cet amour.
Et en s'aimant lui-même, il n'est pas égoïste, parce qu'en fait, il y a trois personnes en lui. Et en plus, il a fait après déborder son amour vers nous. Je vous lis un petit truc par rapport à la joie aussi. Alors, c'est un catéchisme, c'est un commentaire, et ça parle sur les notions de Nouvelle Terre, ça ne parle pas sur la Trinité, de premier abord. Mais quand on demande au commentateur qu'est-ce qui va être les bénédictions dans les notions de Nouvelle Terre, il en donne deux, et la première qu'il donne, c'est l'être de Dieu. Premièrement, nous allons nous réjouir en Dieu pour toujours, parce que Dieu est en lui-même trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se glorifient, se réjouissent, s'adorent et s'aiment mutuellement. Ainsi, Dieu a en lui-même une joie infinie, et nous avons été créés pour partager cette joie. Nous avons été créés pour le glorifier, pour prendre part à cette gloire et à cette joie. Mais aucun d'entre nous, pas même le chrétien le plus affermi dans sa foi aujourd'hui, n'a jamais expérimenté cette joie, une joie parfaite, cosmique, infinie, croissant continuellement. Car tous, nous admirons et adorons bien d'autres choses. Un jour, nous serons libérés du péché. Alors nous connaîtrons, expérimenterons cette gloire et cette joie. Nous nous réjouirons en lui pour toujours. Pour finir, la Trinité et la création. Dieu est amour avant même la création. Il aime, il fait circuler l'amour au sein de son être avant de créer quoi que ce soit. Ainsi, il est libre. Il est libre de créer. Il est libre d'aimer ce qu'il crée. Il est libre d'être aimé ou pas par ce qu'il a créé. C'est pour ça que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il n'attend pas notre amour en retour pour bénir le... Et Dieu n'a pas créé parce qu'il était dans le besoin, comme tu disais, Norbert, mais parce qu'il le désirait par amour. On pourrait avoir encore d'autres images dans la Trinité. Dieu est un Dieu d'ordre aussi, on le voit dans la Bible. Mais en fait, au sein même de la Trinité, il y a égalité entre les personnes. Mais en même temps, le Fils est engendré par le Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. En même temps, il n'y en a aucun qui est antérieur à l'autre. Mais il y a une forme d'ordre qui est vécue dans l'amour et dans la relation sans problème et qu'on voit dans le salut aussi. Dieu planifie la création, dans la création et dans le salut, dans les deux grands actes de Dieu. Dieu planifie sa création, c'est par sa parole qu'il crée, et le Saint-Esprit se mouvait autour des eaux, c'est le Saint-Esprit qui va donner la puissance à la création. Et pareillement, dans le salut, Dieu planifie le salut, il a élu de toute éternité son peuple. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ est envoyé, il accomplit le salut à la croix, et le Saint-Esprit l'applique dans nos cœurs. Il y a un ordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre, et l'univers est un univers d'ordre. Et tout ça se trouve dans l'essence même de Dieu. En fait, tout découle de l'essence de Dieu. Et souvent, donc, des fois, j'entendais, j'écoutais un exposé sur la Trinité, il y a une semaine ou deux, là, en roulant, et le gars faisait remarquer que souvent, en Occident, peut-être que les orthodoxes l'ont moins fait, on étudie Dieu, puis on arrive à la fin, on va étudier la Trinité comme si c'était le sommet, la chose la plus compliquée. Et en fait, il faisait remarquer qu'on devrait peut-être partir de prendre la Trinité comme origine et pas comme fin. Parce que tout découle de l'être de Dieu, finalement.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que le mot jeunesse est péréchiste, je pose des principes, je pose le fondement. Donc tout est, depuis la Genèse, c'est posé. Et dans les Écritures, là, justement, je me suis attardé sur Zacharie, je veux dire, c'est... Quand tu posais la question, les Juifs ne comprennent pas, mais... Si les Juifs relisaient les Écritures comme ils les appellent, tout est écrit, quoi, dans le livre de la Sagesse, dans Zacharie, ben, Zacharie, là, je découvre, mais on regarde qu'il parle du Christ, sans le nommer, mais en fait, il parle de la naissance, il parle de Jésus, même si ce n'est pas écrit Jésus, mais qu'il va être roi et sacrificateur, et ensuite de son retour, quel éternel se posera sur... Tout dans l'Ancien Testament, tout dans l'Écriture parle de Christ, tout est révélé. Tout ça ne peut être. Il n'y a pas de confusion parce que c'est révélé par le Saint-Esprit. Comment des personnes peuvent avoir une révélation comme ça, des personnes qui ne connaissent pas Christ, le mot Jésus, ont une révélation de Christ, de qui il est. Ça ne peut être que par le Saint-Esprit, c'est pas par leur propre intelligence.
Tout à fait.
Donc,
je pense que c'est aussi. On réfléchit pas mal avec notre intelligence, et comme a dit Christophe, j'ai bien aimé, il a dit on a un Dieu infini, et c'est rassurant de pas tout comprendre. Et c'est vrai que c'est un peu incompréhensible, trois personnes dans une seule, en même temps elles sont quand même différentes, et puis elles cohabitent, etc. Enfin, c'est incompréhensible. Hein. Et ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a un Dieu infini, et je pense que ceux qui... les grands rabbins, peut-être qu'ils intellectualisent trop, ils essaient de trop comprendre... c'est de trop comprendre avec leur cerveau humain, et c'est pas possible, en fait. Bon, après, t'as tous les fidèles qui suivent ce que disent les rabbins, et qui se sentent trop comprendre, donc c'est différent, mais en tout cas... Ceux qui essayent de trop intellectualiser la Bible, à mon avis, on en arrive là.
Il faut que le voile soit levé par le Saint-Esprit. Et de toute façon, il y a quand même... Norbert, tu pourrais plus en témoigner que moi, parce que tu vas régulièrement en Israël. Mais si on regarde le nombre de croyants juifs qui ont reconnu Jésus comme Messie maintenant et il y a 100 ans, il y a quand même une sorte de réveil dans le peuple juif, je trouve.
Alors, il y a le mot Jésus dans l'Ancien Testament, hein, c'est Yeshua. Ça veut dire « il sauvera ». Et quand ils lisent « il sauve, il sauvera », il y a le mot de Jésus derrière.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà. C'est pas le nom. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses de... Il y a une nouvelle tendance qu'on voit sur certains chrétiens, souvent hors église, des chrétiens sur Internet, ou des, qui rejettent la Trinité, qui ne croient pas à la Trinité.
Ben, c'est le pro...
C'est une tendance un peu, là.
Non, pas trop. Non, pas trop, mais...
Un prédicateur qui s'appelle Chorak et tout.
Oui, voilà.
Comment il s'appelle ?
Chorak et tout, c'est un nom.
Un gars qui avait...
Mais il y a certains qui le suivent.
Il a sa théorie.
Des personnes que
et
je
c'est
connais,
vrai qu'il y en a plein qui le suivent.
Ben, c'est le problème de vivre une vie chrétienne Internet et pas une vie chrétienne communautaire. Si on va dans l'erreur, on n'aura pas grand monde pour...
Il y a une église, quand même.
On choisit ce qu'on veut, quand même. On choisit ce qu'on veut.
Il y a son église en Afrique, mais...
Puis, il y a toujours eu, il y aura toujours des hérésies, hein.
Je ne comprends pas leur démarche, quoi. Parce qu'ils disent, c'est, on lit la Bible et le mot n'est pas dans la Bible, alors...
C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est pas parce que c'est pas dans la Bible que ça ne recouvre pas des réalités bibliques. C'est un terme technique qui a été trouvé pour essayer d'expliquer pour affiner ce qu'on voyait dans la Bible. Enfin, pour le faire, pour essayer qu'on le comprenne le plus possible. Mais comme on a vu, chacune des affirmations qui sont à la base de la formulation de ce mot se retrouve dans la Bible.
Vous avez remonté contre le terme, c'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce que ça peut leur faire, je ne sais pas.
Mais tu trouves de tout sur Internet. Moi, hier, je regardais des gens qui étaient énervés de ce qu'on baptisait dans des baptistères parce que le vrai baptême, c'est dans les rivières.
Voilà. Je vais vous laisser un dernier verset qui parle de la Trinité. C'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean est très bon sur la Trinité. C'est 1 Jean 1:3. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, là il parle de Jésus, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Donc, c'est encore une fois une invitation à participer à la vie trinitaire et à la joie de Dieu par le Saint-Esprit, avec la communion avec le Père et le Fils. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.
Merci.